Bonjour, vous êtes sur Fréquence Mistral, dans des mots d'ici, des mots d'ailleurs, qui vont venir sonder l'intérieur et l'extérieur de nos vies, en sons, en mots et en notes. Et si tout ceci n'était dû qu'à une suite de rencontres, des mots d'ici, des mots d'ailleurs, t'as toujours le choix de laisser rentrer la lumière ou garder les volets fermés. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs.
Rêvez pas, pointer, gratter, vaquer, marner, bosser, trimer. Ne rêvez pas, l'électronique rêvera pour vous. Ne lisez pas, l'électrolyseur lira pour vous. Ne faites pas l'amour, l'électrocoïtal le fera pour vous. Pointer, gratter, vaquer, marner, bosser, trimer. Ne vous reposez pas, le travail repose sur vous.
In life for free, but you can give them to the birds and bees. I want money. That's what I want. Your love gives me such a thrill, but your love won't pay my bills. I want money. Everything, it's true. What it don't get, I can't use. I want money.
Les statistiques nous apprennent qu'en Angleterre, la durée moyenne de la vie est de 55 ans. Pour les hommes des hautes classes, et de 29 ans seulement pour les ouvriers qui se consacrent à des métiers malsains. Nous savons tous, car nous ne pouvons plus les ignorer, ces terribles effets de l'industrie moderne. Il semble donc inadmissible que nous soyons assez semblables à des bêtes féroces pour profiter d'un travail funeste à tant de vies humaines, sans avoir à tout jamais perdu le repos de notre conscience. Cependant, nous qui vivons dans l'aisance, qui parlons de libéralisme et d'humanité, qui nous piquons d'être sensibles aux souffrances des autres hommes et des animaux eux-mêmes, nous ne songeons qu'à augmenter nos richesses, c'est-à-dire à profiter davantage de ce travail meurtrier, et nous ne cessons de couler des jours heureux dans la plus parfaite quiétude. Apprenons-nous que des ouvriers sont astreints quelque part à 37 heures de travail et qu'ils n'ont pour tout abri qu'une salle incommode et malsaine ? Nous dépêchons immédiatement sur les lieux un inspecteur bien renté, nous défendons de faire durer le travail plus de 12 heures consécutives, laissant du reste à ceux que nous privons ainsi d'un tiers de leur salaire habituel le soin de rechercher comment ils feront face à leurs besoins. Nous obligeons l'administration des chemins de fer à faire construire une salle de repos confortable et spacieuse à l'usage de ses ouvriers. Puis, après avoir par tant d'activités libéré notre conscience, nous continuons en toute tranquillité à encaisser des appointements, des dividendes, des revenus de nos immeubles et de nos terres. Apprenons-nous que dans une fabrique de soie, des femmes et des jeunes filles, séparées de leur famille, entourées de séductions honteuses, jettent au hasard leur existence et celle de leurs enfants, que le plus grand nombre des blanchisseuses qui repassent nos chemises empesées et des compositeurs qui impriment pour notre divertissement des livres et des journaux meurent de la tuberculose, nous nous contentons de hausser les épaules, de déclarer que tout cela est infiniment regrettable, mais que nous n'y pouvons rien. Et dans la paix de notre conscience, nous continuons à acheter des étoffes de soie, à porter des chemises empesées et à lire notre journal tous les matins.
We are programmed just to do.
Supposons que nous montrions un pays européen et les diverses manifestations de sa vie nationale à un homme venu des contrées lointaines, ignorant de notre histoire et de nos législations, et que nous lui demandions s'il aperçoit quelques traces d'une différence de classe. Il nous dira que pour lui, il y a en effet une démarcation très nette entre deux parties de la population. D'un côté, un petit nombre d'hommes qui ont les mains blanches, se nourrissent de mets délicats, portent des vêtements élégants, habitent de luxueuses demeures, travaillent aussi peu que possible, ne songent qu'à s'amuser, obligeant la classe ouvrière à leur fournir des millions de journées de travail pour la préparation de toutes leurs réjouissances. De l'autre côté, des hommes sales, habillés, logés et nourris pauvrement, qui ont des mains calleuses et noires et qui, du matin au soir, quelquefois même pendant la nuit, travaillent sans relâche pour ceux qui ne feront rien et passent leur vie à s'amuser. Sans doute, il n'y a pas, entre l'esclave moderne et son patron, une différence aussi marquée que celle qui distinguait le serf de son seigneur. Sans doute aussi, beaucoup d'ouvriers s'élèvent de leurs conditions serviles au rang de patron, où sont à la fois esclaves et maîtres. Mais malgré tous ces cas exceptionnels, où les deux classes prennent contact et se confondent, on peut affirmer que les hommes de notre époque se répartissent en deux grandes catégories, celle des esclaves et celle des maîtres, aussi nettement opposées l'une à l'autre que le jour s'oppose à la nuit, malgré la transition du crépuscule. Aujourd'hui, un maître n'a pas à sa disposition un esclave qui consente sans aucune rétribution à nettoyer sa fosse d'aisance. Mais il a 3 roubles, qui font grand défaut précisément à des centaines d'ouvriers, et celui qu'il choisira parmi tous ces hommes s'empressera pour cette petite somme d'accomplir l'ignoble besogne. Les esclaves de notre temps, ce sont non seulement tous les ouvriers des usines et des fabriques, obligés pour vivre de se soumettre au pouvoir arbitraire des grands industriels, mais encore les paysans qui ne possèdent ni les champs qu'ils cultivent, ni le blé qu'ils récoltent, ou qui, s'ils sont propriétaires d'un maigre lopin de terre, doivent abandonner leurs revenus aux banquiers pour amortir une dette trop lourde. Ce sont aussi les innombrables laquais, cuisiniers, femmes de chambre, concierges, cochers, baigneurs, garçons, etc., qui remplissent toute leur vie des fonctions répugnantes et contraires à leur nature. L'esclavage existe et fait rage dans notre société, sans que nous en ayons conscience, comme il existait dans l'Europe du XVIIIe siècle, sans que les hommes de cette époque le reconnussent sous la forme du servage. On disait au XVIIIe que la situation des serfs, obligés de cultiver la terre pour le compte des seigneurs et de leur obéir, était une condition économique nécessaire et naturelle de la vie. Mais on ne pensait pas qu'il fût possible de comparer les serfs à des esclaves. De même aujourd'hui, on assure que la situation des ouvriers est une condition économique nécessaire et naturelle de la vie des sociétés. Mais on ne s'avise pas d'y reconnaître les caractères de l'esclavage. Cet asservissement des masses à un groupe privilégié est la principale cause de la malheureuse situation du peuple. Et c'est pourquoi, si nous voulons vraiment améliorer le sort des ouvriers, nous devons tout d'abord reconnaître que l'esclavage existe, en donnant à ce mot non pas un sens métaphorique, mais son sens propre, en entendant par conséquent qu'il existe toujours une organisation soumettant la majorité des hommes au bon plaisir d'un petit nombre. Nous devons en second lieu rechercher les causes de cet état de choses, et enfin, ces causes une fois découvertes, les détruire.
Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ces gens qui courent au grand galop en auto, métro ou vélo vont-ils voir un film rigolo? Mais non, ils vont à leur boulot. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas le vieux os. Il bosse 11 mois pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. 1 mois plus tard, ils sont costauds, mais faut reprendre le boulot. Allez tous ensemble là. Le travail, c'est la santé. Après le travail, faut être fou. Moi, le travail me court après. Il n'est pas prêt de me rattraper. Le travail, c'est la santé. Tu parles, rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers des boulots font pas de vieux os. Maintenant, dans le plus petit village, les gens travaillent comme des sauvages, je les ai vus, pour se payer tout le confort. Quand ils ont tout peint, ils sont morts. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers des boulots font pas de vieux os.
Voilà, encore une fois, pour te feignant là.
Qu'est-ce qu'une loi ? Et qu'est-ce qui donne à quelques hommes le pouvoir de faire des lois ? De l'Angleterre et de l'Amérique, au Japon et à la Turquie, beaucoup de nations ont reçu des constitutions imaginées pour faire croire aux hommes que leur volonté propre décide des lois de leur pays. Mais tout le monde sait que dans tous les États, qu'ils soient gouvernés par un despote ou qu'ils se prétendent libres comme l'Angleterre, l'Amérique et la France, la loi n'émane pas de la volonté nationale, mais du bon plaisir des hommes au pouvoir, et que partout et toujours, elle est ce qu'elle doit être pour servir les intérêts des gouvernants, quel que soit leur nombre. De même, partout et toujours, on emploie pour faire exécuter la loi les moyens dont les hommes ont accoutumé de se servir pour imposer leur volonté. Les coups, l'emprisonnement et le meurtre. Il ne peut en être autrement. Il ne peut en être autrement car les lois sont des règles dont il faut assurer l'application. Et pour obliger des hommes à se conformer à certaines règles, c'est-à-dire à faire ce que veulent d'autres hommes, il n'y eut jamais d'autre moyen que les coups, la prison ou la mort. Du moment qu'il y a des lois, il faut qu'il y ait aussi une force pour les faire exécuter. Or, la seule force qui puisse contraindre les hommes à observer des règles, à faire ce que d'autres ont voulu, est la violence. Non pas cette simple violence que les hommes emploient les uns contre les autres dans une minute de passion, mais la violence organisée, consciente, celle précisément dont s'arment les gouvernements pour assurer l'application de leurs décrets, c'est-à-dire pour imposer leur volonté. Ainsi, ne cherchons plus l'explication des lois dans l'idée d'État, la commune volonté du peuple ou d'autres abstractions aussi vagues, elle est dans le fait que quelques hommes peuvent, en usant de la violence organisée, soumettre à leurs désirs tout le reste de l'humanité. Et la seule définition précise, indiscutable, intelligible pour tous, que l'on puisse donner des lois est la suivante. Les lois sont des règles établies par des hommes qui s'appuient sur la violence organisée, règles qui doivent être observées sous peine de coups, de prison ou même de mort. Cette définition contient la réponse à la deuxième question. qu'est-ce qui donne à quelques hommes le pouvoir de faire des lois ? Ce qui donne le pouvoir de faire des lois est aussi ce qui permet d'en assurer l'exécution, la violence organisée. Dans quelle mesure et quand sera remplacé dans chaque société le règne de la violence par celui du consentement libre et raisonnable des hommes ? Cela dépendra du nombre des esprits qui, dans chaque pays, prendront conscience du mal et du degré de clarté avec lequel ils le percevront. Chacun de nous, isolément, peut collaborer au mouvement général de l'humanité ou au contraire y faire obstacle. Chacun de nous devra choisir. Construire sur le sable la demeure fragile de sa vie illusoire et passagère, ou diriger ses efforts dans le sens de l'éternel, de l'immortel mouvement de la vie véritable. Mais peut-être me trompais-je, et doit-on tirer de l'histoire de l'humanité de toute autre conclusion ? L'humanité ne marche pas vers l'affranchissement, et peut-être prouverait-on que la violence est un facteur nécessaire du progrès, que l'État, avec toute sa violence, est une forme nécessaire de la vie. Et que le malheur des hommes serait plus grand le jour où disparaîtraient les gouvernements, la propriété, la protection des biens et des personnes. Admettons que cela soit vrai, et que tout ce que j'ai dit jusqu'ici soit au contraire inexact. Il est une question qui doit préoccuper chacun de nous au moins autant que les considérations générales sur la vie de l'humanité. C'est celle du parti qu'il prendra pour la direction de sa vie personnelle. Et toutes les dissertations possibles sur les lois générales de la vie n'empêcheront pas que l'homme soit tenu de ne pas faire ce qu'il considère comme dangereux et mauvais. Il se peut bien dire à tout homme sincère et honnête qu'un gouvernement violent soit nécessaire au bonheur des sociétés.
Il se peut bien que cela soit prouvé par l'histoire et que vos dissertations n'aient rien que de très exact. Mais l'assassinat est un mal. Cela, je n'ai besoin d'aucune dissertation pour le comprendre aussi clairement que possible. En me demandant soit le service personnel dans un régiment, soit de l'argent pour payer et armer des soldats, acheter des canons, construire des cuirassés, vous me demandez tout simplement de contribuer à des assassinats. Et non seulement je ne veux pas, mais je ne puis pas faire cela. De même, je ne veux pas et ne puis pas jouir de l'argent que par des menaces de mort vous avez obtenues d'hommes affamés. Je ne veux pas jouir de la terre et des capitaux que vous protégez, car je sais que vous les protégez par l'assassinat. J'ai pu faire tout cela tant que je n'avais pas compris tout le crime qu'il y avait à le faire. Mais maintenant j'ai vu, et je ne puis plus oublier, et je ne puis plus participer à votre œuvre. Je sais que nous sommes tous si fortement assujettis à la violence qu'il nous est très difficile de la vaincre. Mais je ferai cependant tout ce que je pourrai pour ne pas la favoriser, pour ne pas être son complice, et je m'efforcerai de ne jamais profiter de ce qui a été acquis et de ce qui est gardé par la violence. Je n'ai qu'une vie, et pourquoi dans cette vie si courte me ferais-je contre la voix de ma conscience le collaborateur de vos horribles forfaits ? Je ne veux pas être, et je ne serai pas celui-là. Ce qui sortira de tout ceci, je l'ignore, mais je crois que je ne puis rien produire de mauvais si j'agis toujours comme ma conscience me l'ordonne. C'est ainsi que tout homme sincère et honnête de notre temps répondra à ceux qui voudront lui prouver la nécessité des gouvernements et de la violence, à ceux qui lui commanderont ou qui lui demanderont de contribuer à des actes de violence. Si bien que ce juge suprême et souverainement juste qu'est notre conscience confirme pour chacun de nous les résultats des considérations générales que je viens de présenter.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend mal.
Passant, engourdi par le chaud du lit, tu traînes ton regard perdu sur la rue. Le froid rétrécit ta pensée. Tu penses, tu rêves, tu te presses. La nonchalance n'est pas de mise. Le col se relève, la tête s'abaisse. Un vent coulis apporte le frise-lit. Passant, ton regard plongé sur le vide te rend sérieux ou folâtre. Un courant d'air et l'on s'agite. Un rayon et l'on se calme. On court, on s'affole. Fourmis avantageuses qui, vers d'autres besognes, se faufilent en peut-être voyageuses, passant engourdies par le froid soudain. Oublie où tu es, de quelle vie tu viens. La rue ne peut être que le miroir déformé d'un enfer déjà posé. La rue est peut-être le miroir. Parler, parler et déjà se compromettre. On oublie d'un coup notre pensée. Parler en un lieu sans savoir où se mettre. Parler pour qu'un autre n'entende pas. Parler plus fort que la tempête. On résiste comme un roc à la marée. Parler à sa propre chair et n'avoir comme écho qu'une fuite presque sereine. Douleur obscure ou fatalité vaine. Un murmure dit plus fort les choses. Promettre qu'on se parle et ne rien dire qu'en bruissant, qui ne puisse savoir si l'on se fait entendre ou détester dans l'un ou l'autre, comme un roc à la haute marée. Dans la nuit douce du sommeil, j'oublie les bruits des marteaux piqueurs piquant comme un pivert l'arbre de vie. Je marche sur un chemin qui m'amène dans un monde où le soleil, le ciel, la terre, la pluie, le vent, l'orage, la nature restent l'essentiel, simple et plus forte que toute invention humaine. J'oublie, je parle, je m'efface. Parler est déjà se compromettre. Si par une nuit d'été un voyageur pose son sac, son bâton et son heurt. Si par une nuit d'hiver, un cheminot troque sa cape comme une vieille peau. Si par une nuit sans lune froide, au profond du noir, on se sent roide. Si par un jour d'une pluie frissonnante, elle vient, semble-t-il, toute bruissante. Laisse la vie t'emporter, tu n'as su rien voir au creux du soir qu'un vague espoir noir. Alors que le ciel, au bleu naissant, te propose peut-être, si tu le sens, cette grande lueur sur le couchant. Comme une invite creuse le temps. Si par une nuit d'hiver, un voyageur oublie son sac, c'est son bonheur. Polie le temps aux arêtes cassantes. Polie le temps sur l'enclume dressante, polis le temps aux arêtes cassantes, polis le temps sur l'enclume dressante. Et si par une nuit d'été, un voyageur pose son sac. Durant le voyage, quelques herbes amères laissées au creux du talus veulent traduire l'éphémère avec les yeux du voyageur. Et le renouveau, ensemble têtu d'une vie précaire et lisse, où la petite bosse se cache un monde propice, tenace à surgir rosse sur le passant rêveur, qui d'une fleur se croyait encore le luron compagnon flâneur, mais en se faisant ira aussi vers la mort. Étrange torpeur, inquiétante douleur, l'herbe gracile reste immobile. On est surpris, on ne l'attend pas. Un vent arrive, se lève et bouscule la feuille qui tantôt se figeait. Douce solitude à sentir ce vent naissant emplir en un temps tout un présent. À peine venu, il s'effiloche, laisse une traîne d'aristoloche. On se recale, on s'y installe. Un début de nuit chaud endort le songe d'un enfant, éveille le rêve qui s'évanouit. Le ciel déjà s'emplit de nuit. Étrange torpeur, étrange torpeur, inquiétante douleur, l'herbe gracile reste immobile. À l'aube naissante d'un soleil orangé, l'alouette sans fin d'un chant éclaboussé envahit le ciel à l'instant serein. Sur l'horizon pâle, engourdi de nuit, une main dessine un espoir vain. Soliloque de mélancolique venue, embrasement soudain peut-être la vie. Un corps se déplie, une ombre nue, d'un noir contour qui se devine à peine, ondule comme plumée au vent. Respire, palpite enfin se meut, bouge, en vrai, on allaite, on attend, c'est la bonne heure, on s'arrête, l'esprit s'efface, le corps a disparu. On est là, dans la rosée mouillée, les plumes collées. Une goutte oubliée, du sang de l'aube, un soleil est tombé. Sanglot, l'après à jaillir, l'alarme à peine retenue, un rien serre de bonde, le tonneau est de belle venue, le rayon l'après à briller, la goutte à peine éclatée, un nuage serre de porte, le vide s'ouvre un noir profond, le temps est porteur moribond, le sanglot là prêt à jaillir, l'alarme à peine retenue, le sanglot là prêt à jaillir, l'alarme à peine retenue, l'alarme à peine retenue.
sign up in our town. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you got to hold on, hold on. You got to hold on, take my hand. Standing right here, you got to hold on. Dime store watch and a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame. And you share my bed, you share my name. Well, go ahead, call the cops. You don't meet nice girls in coffee shops. Said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take my hand. Standing right here, gotta hold on. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, you're hometown so far away, but inside your head there's a record that's playing, a song called Hold On, Hold On. Baby, gotta hold on to take a mind, standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. Standing right there, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. 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 You gotta
hold on. Le voyageur poursuit son voyage. Il croise un musicien qui pleure sur son violon cassé, dont l'âme vivait dans l'arbre de la forêt du fond de la vallée des violons. Alors, le musicien coupe le violon pour en refaire un arbre. Mais l'arbre ne veut pas naître d'un violon, mais d'une fleur. Au cas où le soir ne viendrait pas, adieu nos folles enfances. Des lieux la vie s'en va. Où sont nos espérances. Tombe la feuille ivre de pluie, vole l'oiseau ivre de vent, et toi là, ivre de vie, cloue au sol un boulet pesant. Dans le lointain, un piano joue, Rêvons de la pianiste, jeune ou vieille, sa maison de mousse de bouteille. Si elle joue, c'est que la vie tend sa joue. Un soir point de clarté apesante, une nuit qui n'en finit plus de tirer, une place au jour bien méritée. Un soir, tu viens confondu dans le noir. Le vent, en facteur impétueux, m'apporte ta voix, tes rires, tes pleurs aussi, durant mon voyage. Le volet bas, qui me rappelle frileux dans cette halte, que toi là-bas, sans le dire, tu te souviens aussi. Durant mon voyage, souvent, mes pensées se dirigeaient vers toi. Le silence s'installe doucement sur le bois, sur l'étang. L'eau, en fine mouchetures, vient iriser l'onde sûre, la nuit porteuse de cette eau sombre. Pénètre le bois, mouille les ombres. La lune absente ne peut éclairer l'inondation soudaine, enivrée. La mousse se gorge comme offerte. Le vent se joue de la muette. Pluie filandreuse, porteuse d'eau. L'herbe s'enivre à pleine eau. Le silence se trouble parfois d'un battement dans l'attente du clair-obscur qui, d'autrefois, apportait la nuit trop lente. Je me suis endormi et au matin, c'est l'odeur qui touchait en premier. Longue, dense, flottante, palpable, on les sentait sans les voir, on devinait sans entendre, on imagine déjà sans s'en apercevoir. Odeur grasse, lourde, parfumée, collée aux herbes, aux branches, aux nuages. Odeur enveloppante, entêtante à l'envi. Une brise tiède casse plus loin le flacon. D'une bouffée immense, nos sens s'enivrent, puis un bruit, non, un clapotement sec. Une ondulation lointaine, un nuage. Les oiseaux se taisent, l'odeur est forte. La masse laineuse frissonne, le pas se précipite en mille saccades. Le fleuve se passe ou se noie, on s'emporte en voyage d'un tourbillon de vertige. Il ne reste qu'un moment bref, seul, abasourdi et délivré. C'est l'odeur qui touchait en premier. Longue, dense, flottante, palpable. C'est l'odeur qui touchait en premier.
metropolis. Hooked on necropolis. Addict of metropolis. Do the worm on necropolis. Slam dance cosmopolis. Enlighten the populace.
Un nuage noir, un nuage lourd, cache le feu, il devient sourd. Soudain, le chemin se gorge de mouillure. Le vent viendra sécher les gerçures. Le feu venait derrière la brume grise. Le nuage plus loin emporte sa marchandise. Une herbe étonnée, sans doute, d'être mouillée, au vent naissant, se tourne pour se sécher. Un nuage noir, un nuage plein, accroche à la branche alors serein un rideau lentement qui déteint. L'eau brunit le tronc, perle une goutte, la mousse la boit, elle la prend tout l'hiver, s'installe encore cette fois, un vent coulis résonne par les toits, le nuage rivé au ciel obscur est peint d'un artiste vengeur, le trait qui le fait sien. Et oui, ce matin, le givre a tracé sur la vitre des lignes, des ogives, des pointes, des mitres. Artisanale besogne nuitamment menée pour quelques noctambules effarouchés. Le ciel bleu annonce déjà la déconfiture du travail tissé par la nature. Le soleil, à son tour, viendra fondre les dentelles d'une nuit sombre. Soit les arabesques tracées des gris resteront sur le décalque de la vie, on n'emprunte pas toujours le chemin pointé. Un détour, une fleur attire le bout du nez et nous voilà partis pour d'autres destinées. Ce matin, le givre a laissé sur la vitre quelques possibles traces ou rêves alanguis qui ne verront jamais le réel de l'ennui, mais seulement un espoir vain, sorti d'un fol épître. Le voyageur poursuit son voyage. Il décide de s'arrêter là. Le soir descend sur le bois. La nuit dicte sa loi. Là, un crissement de feuilles. Un habitant refuse le deuil. Le soir descend sur le bois. La nuit dicte sa loi. Là, un crissement de feuilles. Un habitant refuse le deuil. Ici, un froissement de paille. Un autre encore bataille. On chuchote dans la haie. On épie, on est inquiet. La nuit envahit le bois, un silence ou un émoi. À travers les herbes, l'herbe frais semble donner un élan vrai. On respire la vie. La vie renaît. Pourtant de nuit, le noir est fait. Chaleur sonnaille, le jour est plein. Le soleil va le bois et loin, quand l'habit noir habille seul étrange des guenilles, les branches, le vert et toi, la lumière manquée de joie. Le ciel plein de nobles grisures laisse les taches blanches se nimber de gris. Aux arbres, les feuilles en vin vertes restent un peu plus qu'une déchirure. D'autres rouges déjà sombres et se fondent sur la terre brune et digérées se confondent. Au l'odeur à nul autre pareil que la feuille mouillée à l'eau d'automne naissante. La terre prend couleur, l'herbe prend saveur, odeur troublante où souvenirs se mêlent, là sous le tilleul de l'enfance, au pied du buis conique et sentant, odeur magnifique et claquante. L'enfant est derrière, le réel est devant. Une effluve, une vision éclaire, en éblouissant un regard que l'on voudrait toujours derrière soi. Le soir descend sur le bois, la nuit dicte sa loi. Le ciel plein de nobles grisures, odeur à nul autre pareille que la feuille mouillée à l'eau. Le soir descend sur le bois, la nuit dicte sa loi.
righteous poor father, a working man live like a slave. He drink every night and he dream of a future of money he never would save. Billy would cry when he thought of the future. Soon came a day when the bottle was broken. They launched a great ship out to sea. He felt he'd be left on a desolate shore to a future he desperately wanted to flee. What else was there for a shipbuilder's son? A new ship to be built, new work to be done. One day we dreamed of the ship.
Thank you.
Après un long voyage en solitaire, n'ayant vécu que des hivers au bout de l'horizon, là enfin poindre toi, toi. À perte de ciel s'étend l'horizon, à perte de sable vague le désert. Aucune accroche ne brise cette vision, pas une vie vivante empêche cette mer. Le soleil s'y perd en étouffante chaleur, le vent y façonne et creuse un dur labeur. Point minuscule au travers de ses étendues, vie presque nulle, souvent malvenue. La vision de cette immensité emplit l'être d'une immense sérénité. Une dune change le paysage, bouge. Une fleur, petite, dans cet océan rouge, surprend le passant, rare en ces étranges voisinages. Pourtant, cette pointe de vie, plus que sauvage, agace notre ébahissement soudain. On pourrait vaincre même le plus lointain. Aucun ne peut suspendre la lente ténacité de cette farouche et opiniâtre volonté. À perte de ciel s'étend l'horizon, à perte de sable vague le désert. Et déjà nos chemins se séparent, avant que de s'être rencontrés, juste s'être entendus. Dans cette émission, des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Vous avez entendu le bruit du marteau-piqueur, de la pluie, des pas sur le gravier, des bruits de la nuit. Des musiques des Flying Lizard, Kraftwerk, Eric Satie, Steve Reich, The Clash, Youssef Duffer, Tom Waits, Sting, Sakamoto. Des textes tirés de l'esclavage moderne de Tolstoï avec la voix de Nathalie Vautier.
Des textes tirés de Certissage de Bernard Loyer aux éditions Pont-Saint-Jean. Lu par James Fontaine.
Ce soir, à la régie technique, nous avons Monsieur Christophe Becquereau. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Prochaine émission, dernier jeudi de chaque mois. Donc, rendez-vous jeudi du mois prochain. Dernier jeudi du mois prochain. Et on vous dit bonsoir.
Bonsoir.